Hola tutti, nous sommes le mercredi 19 novembre, mais c'est ce lundi 17 que j'enregistre au studio de Radio Galère 88.4 à la Friche Belle de Mai, cette émission Une heure en Palestine, toujours avec notre super technicien Sidi qui est là en face dans le studio. Et donc je suis Philippe, je suis ici parce que parmi les animateurs qui animent cette émission, il y a ceux qui sont membres de l'asso Palestine 13 et je suis membre de Palestine 13. On évoquera tout à l'heure le site excellent assopalestine13.org qui contient beaucoup d'informations nationales et internationales qui sont toutes sourcées, et puis surtout un agenda qui regroupe des événements locaux dont on parlera à la fin de l'émission. Et donc par ailleurs je suis là aussi parce que je développe depuis 2021 un projet qui s'appelle la route du Zaatar, qui consiste à transporter à la voile des produits méditerranéens pour l'instant dans le bassin occidental, c'est-à-dire dans les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, la côte Ligure, la Corse et la Sardaigne. Donc des produits méditerranéens que j'emmène en particulier de la part du partenaire France Import Palestine, donc des produits qui proviennent de Palestine et qu'on peut découvrir dans le très bon site fipsouk.fr. Et lorsque je reviens par exemple de Corse, j'ai des produits corse et je suis tous les dimanches matins au marché du Port Vieux de la Ciotat. La Ciotat où se réunit depuis presque 80 dimanches à partir de 10h sur les marches de la grande église du Vieux-Port, le collectif Palestine La Ciotat. Alors on entendra tout à l'heure Nicolas, l'un des membres de ce groupe qui a organisé du 9 au 12 décembre dernier, d'abord le dimanche 9, un petit défilé nautique avec des bateaux qui avaient hissé le drapeau palestinien, et c'était un défilé en écho aux flottilles qui cette année encore ont tenté de forcer le blocus de Gaza et ont tenté d'imposer, ce qui est obligatoire de par la loi, un corridor humanitaire maritime. Mais bon, les autres années, ça fait des décennies que des flottilles existent, mais souvent c'était des bateaux seuls. Cette fois, il y a eu de très nombreux bateaux répartis en deux flottilles, l'une qui s'est appelée Thousand Madeline to Gaza, Madeline étant le nom d'une jeune fille qui, il y a longtemps, était avec son père qui était pêcheur à Gaza. Son père avait eu un accident et cette fille Madeline voulait devenir patron pêcheur, et des années plus tard elle l'est devenue. Et on peut voir l'histoire de cette jeune Gazaoui devenue patron pêcheur mais aussi mère de famille sur YouTube dans l'excellent film Aimer la mer à Gaza. Et donc question mer, dimanche 9, des bateaux ont défilé dans le port de la Ciotat en écho à ces flottilles. Il y en a eu une autre peut-être plus populaire au niveau international, la Global Sumut Flotilla. Alors on entendra dans cette émission Emilien Urbach. Emilien qui a été l'un des skippers qui se sont engagés sur un voilier. Pour lui, ça a commencé à partir de mi-août. Le départ, c'était le 31 août de Barcelone. Et puis ensuite, c'est passé par la Tunisie. Voilà. Et Emilien était skipper, mais il était aussi, surtout, envoyé spécial en tant que journaliste par le journal L'Humanité, qui est le seul média de presse écrite à avoir envoyé spécial sur la flottille. Mais dans l'autre, dans Thousand Madeline to Gaza, on a pu rencontrer à Ajaccio, il y a quelques jours déjà, la doyenne des engagés dans cette flottille, cette doyenne qui va avoir 83 ans en décembre, s'appelle Isaline Chouri, et je vous invite à entendre les deux parties de son témoignage qui sont absolument bouleversants dans l'émission donc Une heure en Palestine du 22 octobre qui avait été montée par Marie, et dans l'émission du 30 octobre. Voilà. Et donc cette Isaline Chouri, après avoir été agressée et attaquée comme tous les autres bateaux de façon illégale dans les eaux internationales par l'armée d'Israël, a subi des tortures incroyables dans les prisons d'Israël, mais elle a aussi été maltraitée par certaines autorités françaises. Voilà. On entendra aussi dans cette émission, on l'espère, Gemma, le Philistin, qui revient du Pays Basque, là où il y a eu un événement très important au Pays Basque, d'une part dans une salle pour présenter tout un tas d'informations actuelles sur la Palestine, en profiter aussi pour vendre des produits palestiniens. Et puis récemment, il y a eu un grand match de foot entre une sélection du Pays Basque et une sélection donc de Palestine. Voilà, on aura Gemma au téléphone tout à l'heure. Mais en attendant, on va donc entendre Nicolas, qui a donc organisé ce très bel événement dans un endroit de la Ciotat, juste au-dessus du Vieux-Port, qui s'appelle, et il est très bien nommé, le Cercle de la Renaissance. On entend Nicolas.
Voilà, donc nous sommes à la Ciotat, au fameux Cercle de la Renaissance. Moi, je vis à la Ciotat depuis longtemps, puisque régulièrement, je m'installe route du Zatar au marché du dimanche. Mais je ne connaissais pas encore donc, le bar de la Renaissance, qui est avenue Gallieni, au-dessus duquel il y a une grande salle où se passent plein d'activités associatives. Et depuis dimanche 9 novembre jusqu'au mercredi 12, ont été disposés sur les murs des panneaux. Il y en a 29, hein, des panneaux qui ont été démarrés il y a quelques années. Et je suis avec Nicolas Pluet, qui est l'un des instigateurs de cette exposition. Et donc ces panneaux ont le mérite de montrer ce que des gens éclairés, comme Nicolas et d'autres, dénoncés depuis plusieurs années, et ont été rajoutés sur ces panneaux quelques bandeaux qui décrivent la réalité d'aujourd'hui. Puisque cette exposition, en fait, s'est déclenchée parce que un collectif Palestine s'est créé à la Ciotat, qui manifeste tous les dimanches sur les marches de la Grande Église, toujours pour dénoncer ce qui se passe à Gaza, mais également pour collecter des sous pour aider un Gazaoui en particulier qui a pu venir en France, Mohamed, et donc des sous sont collectés pour que des survivants de sa famille puissent encore survivre à Gaza. Et du coup, Nicolas m'a expliqué que lorsque ces panneaux ont été créés, lui est venue l'idée d'une chanson avec beaucoup de couplets. Cette chanson s'appelle Palestine. Et si tu es d'accord, Nicolas, si tu veux nous en chanter un ou deux couplets, ça sera vraiment super pour commencer ton discours.
Oui, mais je voudrais juste préciser que ça a démarré pour le collectif Palestine bien avant le génocide en cours et les initiatives prises sur les marches de l'Église. Ça a démarré en 2009, après une des nombreuses guerres dont Gaza a été victime. Il y en a eu 15 des guerres comme ça depuis 1948. Et après celle de fin 2008, début 2009, s'est constitué un collectif Palestine à la Ciotat qui a décidé de faire... de réaliser une exposition, une brochure, et la chanson dont tu parles, elle m'est venue parce que je me suis dit, il faudrait mettre ça en chanson. Et j'ai trouvé un air qui me paraissait porteur, et puis j'ai écrit, et puis ensuite on a repris avec mon frère les paroles de la chanson, parce que comme la situation évolue toujours en pire à chaque fois, on a fait bouger petit à petit les paroles de la chanson. Je vous en chante un petit bout. Je suis Palestine, celle qu'on assassine, que l'exil opprime et les camps sont pour moi. Je résiste et lutte, fais face à ces brutes, la paix est mon but et je veux mon état. Ader, Yassine, Irgun, assassine et tu sens quartier, un village tout entier. Terre volée, 500 lieues rasées, il fallut partir sans pouvoir revenir. Et puis on ajoutait les couplets sur Gaza, un couplet sur Gaza. Gaza, sur le génocide, quand je n'enchaîne pas les couplets,
mais
en Cisjordanie, un mur y est bâti, et tous ces barbelés te voilà enfermés. Le pays entier cerné et morcelé, oui, à côté Berlin, ce n'était vraiment rien. Gaza, martyr, bombe sur la ville et sur tant et tant de fameuses et d'enfants. Et pour maison détentée des ruines Gaza, prison, génocide, le pire crime. Et on termine par l'appel au boycott, aux sanctions pour imposer le droit. Parce que ça ne viendra que par les peuples du monde. Pour faire bouger un État comme le nôtre, il faut l'action et donc un minimum de connaissances. Et c'est l'utilité... De l'exposition voilà. Que nous pratiquons.
Effectivement, cette exposition avec des panneaux explique, montre, mais c'est clair qu'écrire un poème, écrire un texte et en plus utiliser une musique et le chanter, c'est évidemment très très porteur pour expliquer ce qui se passe. On est très nombreux dans le monde des êtres humains qui sont attachés tout simplement à la vie humaine, à comprendre ce qui se passe, à comprendre que c'est inacceptable. Mais c'est à force de faire des choses comme vous avez réalisé que plus de gens en prennent conscience, plus de gens revendiquent et que petit à petit, les États peuvent bouger.
C'est ça qui a fait bouger Macron, qui a reconnu très très tardivement l'État de Palestine. Mais S'il n'y avait pas eu des pressions depuis des années et des années, jamais cette reconnaissance n'aurait eu lieu. Et la reconnaissance, ça n'était en gros que la reconnaissance d'un cimetière, à peu près. Parce que ce qu'il aurait fallu faire, qui est toujours possible de faire, c'est déjà de remettre en cause l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne, qui permet à Israël d'être commercialement comme un pays de l'Union et d'assurer un tiers de son commerce extérieur à l'entrée comme à la sortie. Si on arrête ce robinet, et normalement, il y a les clauses de l'accord obligées au respect des droits de l'homme, elles sont violées depuis très très longtemps, mais si on arrêtait ça, ce serait une crise assurée, une crise économique grave qui aurait fortement gêné le génocide. Et si on veut obtenir que enfin Israël se comporte, respecte le droit international, il faut des pressions. Jamais ils n'accepteront tout seuls. Ce pouvoir n'acceptera jamais de respecter le droit. Et donc, il faut une pression, il faut des sanctions, il faut remettre en cause cet accord. Il faut aussi remettre en cause les relations diplomatiques avec Israël tant qu'il ne respecte pas le droit. C'est une volonté, c'est une demande de l'ambassadrice de Palestine en France, et on la reprend.
Bien sûr. Et pourquoi Israël n'acceptera jamais de respecter le droit ? Parce que tout simplement, c'est un pays ultra-colonialiste associé à un autre pays ultra-colonialiste qui s'appelle les États-Unis. Et c'est un colonialisme de remplacement et d'extermination. Pour ma part, je suis étonné quand j'explique tout simplement que génétiquement, les États-Unis est un État génocidaire, puisque quand ils sont arrivés sur des terres habitées, ben ils ont exterminé les Indiens d'Amérique d'une part, et cet État, comme tant d'autres, comme les États donc capitalistes, ne pense qu'à une chose, c'est de s'approprier les ressources. Et donc effectivement, malheureusement, tant que les autres États, dont le nôtre en particulier, sont complices d'Israël, ben rien ne peut arrêter cet État-là d'exterminer des vies humaines. Sauf, justement, la multiplication des événements comme celui que vous avez réalisé, le collectif Palestine Nashuta, et puis aussi, je crois que tu fais quand même partie du Parti communiste, on peut
oui,
le dire, depuis longtemps.
Un
peu beaucoup. Voilà, et donc c'est à force de réalisations comme celle-là que, malgré tout, des autorités bougent. Mais on en parlait tout à l'heure, moi j'ai honte de ce que fait mon État. Il y a vraiment complice mon État français de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Il y a d'autres États en Europe, tu m'en parlais tout à l'heure, qui eux ont réagi beaucoup mieux. Si tu peux nous dire pourquoi tu penses que d'autres États sont moins complices que la France ?
En Europe, il y a l'Espagne juste à côté de nous qui a remis en cause ses accords économiques avec Israël, qui n'exporte pas d'armes. En France, quand on refuse d'exporter les armes, c'est pas du fait de l'État, c'est du fait des dockers, syndiqués CGT, qui bloquent les cargaisons ou de syndiqués sur les aéroports. C'est pas l'État et le ministère de la Défense. Les autorisations officielles de livrer en plein génocide des composants pour des armes, des drones militaires notamment, fabriqués par Thales. On a un établissement à Thales à La Ciotat. Ben, on distribue des tracts pour expliquer ça de façon à ce que les gens, à aider les gens à bouger, parce que là, pour l'instant, il y a un accord de la part un accord officiel pour vendre.
Oui, une complicité de crime. Alors là, c'est relié au niveau international. Il y a une campagne internationale qui s'appelle Stop Arming Israel. Pour tous ceux qui veulent comprendre, on tape ces mots-là sur Internet et on trouve de façon complètement incroyable que pendant qu'un État fait des choses complètement illégales, eh bien, l'État français continue de commercer avec lui, etc. Alors bon, quand on se sent démuni aussi, eh bien justement, ce genre d'exposition,
non seulement commercer, mais envoyer les armes.
Oui, en plus, bien sûr, du commerce, et de toute façon, le commerce d'Israël est forcément voué à la guerre, puisque initialement, la façon dont cet État a été créé, c'est-à-dire de s'approprier les terres d'autres personnes, de les tuer, ben forcément, c'est un État qui est continuellement en guerre. Donc tout commerce avec Israël sert à la guerre que je mène Israël. Ça, c'est sûr. Et puis, ce que je voulais dire aussi, donc, c'est que quoi ? Eh ben, il faut que tu continues de nous expliquer, Nicolas, parce que tu es lancé, vas-y. Oui, c'est ça, c'est que cette expo donc, de panneaux qui existait...
La première exposition date de 2009.
Oui.
Elle est complétée aujourd'hui par pas mal de choses pour dénoncer, montrer en quoi consiste le génocide et le dénoncer. Mais on s'est aperçu que tout ce qu'on dénonçait en 2009, ça reste parfaitement d'actualité, sauf que tout a empiré, et parfois extrêmement gravement.
Et, oui.
Et donc, on a surmonté les panneaux de l'époque, 2009, par des indications sur, ben voilà, maintenant, on en est là, et ça a empiré de telle façon. Et ben, si je prends un exemple, l'eau qui est accaparée par Israël, ben, on a appris depuis qu'à la frontière de Gaza, des forages profonds sont pratiqués par Israël, en biais, de façon à aller à pomper dans les nappes phréatiques profondes de la bande de Gaza, ce qui assèche les nappes de surface, celles où se trouvent, où puisent des puits.
Bien sûr.
Et comme on est tout près de la mer, ce qui remplace, eh ben c'est de l'eau salée. Et l'eau de Gaza est imbuvable, c'est une eau saumâtre. Et ça, ça a été voulu techniquement, scientifiquement réalisé pour pourrir complètement la vie. Mais ce qui est vrai à Gaza, c'est vrai en Cisjordanie aussi. Il y a des checkpoints qui vous... Bon, il faut faire des kilomètres de détour pour aller bosser. On a droit... ensuite, il faut passer le checkpoint et se faire la queue, se faire humilier. À l'époque de notre première exposition, il y en avait 500 en Cisjordanie. Aujourd'hui, il y en a plus de 1200. Donc, tout est fait pour pourrir complètement la vie des Palestiniens, aussi bien à Jérusalem-Est qu'en Cisjordanie, qu'à Gaza, où c'est effrayant,
okay.
Et même en Israël même.
Voilà. Et du coup, ben, constatant que nos décideurs ne font rien pour stopper ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Ben, communiquer le plus possible pour que de plus en plus de gens relaient ces voix-là et que finalement des décisions soient prises petit à petit. Et puis, bien sûr, il y a la possibilité, et c'est ce qui s'est passé ici, parce qu'à côté de cette exposition très pédagogique, il y a une exposition d'œuvres d'art que des artistes ont donné et dont la vente va pour Médecins sans frontières et pour le Secours populaire au profit de Gaza. Donc ça, c'est toujours possible. Même si c'est compliqué, il y a quand même des structures comme l'association France-Palestine Solidarité ou l'Union juive française pour la paix, d'autres associations avec lesquelles on est sûr que l'argent qu'on récolte va aider, même si, là aussi, Israël fait un blocus complètement hors la loi pour empêcher les aides humanitaires d'arriver, que ce soit des médicaments ou tout simplement de l'eau pour boire, puisque comme tu le dis, l'eau de Gaza est impropre à la consommation. Voilà, et donc peut-être qu'on peut faire un petit tour pour expliquer aux gens.
Je voulais juste dire que l'information, c'est vital. Et j'encourage tout le monde à lire un document extraordinaire qui a été publié en fin juillet 2025 par B'Tselem, qui est une association, une ONG israélienne qui pratique la solidarité avec les Palestiniens, mais dans laquelle on trouve des Israéliens juifs et des Palestiniens, et qui a publié un rapport intitulé « Notre génocide, celui que pratique Israël ». Oui. Et c'est important de voir que des Israéliens reconnaissent le génocide, le dénoncent et en donnent à mesurer les origines qui remontent à 1948, à la façon dont s'est construit l'État d'Israël. Pas forcément, ils estiment que l'État d'Israël aurait pu fonctionner autrement.
Bien sûr, bien sûr.
Ils disent que ce fonctionnement-là aboutit au génocide.
Ouais.
Et ça peut, alors, notez, B'Tselem, notre génocide, ouais. Vous pouvez le trouver sur Internet et vous allez chercher le site du groupe Rennes, le groupe rennais de l'association France-Palestine Solidarité qui en a fait une traduction en français. Et il faut connaître ce document-là pour les gens qui ne sont pas convaincus qu'il s'agit d'un génocide. Et puis pour ceux qui nous accusent parce qu'on en parle d'antisémitisme, ben voilà, regardez, des Israéliens le disent eux-mêmes, des Juifs israéliens le disent eux-mêmes.
Bien sûr. Non, c'est pas de l'antisémitisme. Tous ceux qui luttent contre ce qui se passe, c'est de l'anticolonialisme. C'est pas du tout une guerre de religion, c'est pas du tout... Non, c'est tout simplement un colonialisme extrémiste qui est dû aux dérives du projet sioniste. Maintenant, l'État d'Israël est dirigé par des fascistes. Et donc ces gens-là n'ont qu'une idée en tête, c'est de s'approprier les terres, les ressources dont ils peuvent disposer, et quitte à exterminer tous les gens qui vivent sur ces lieux, tout simplement. Alors peut-être qu'on peut faire un petit tour là sur les tables, parce que donc nous, ce qu'on espère, c'est que tous ces panneaux qui décorent les murs, donc du Cercle de la Renaissance à la Ciotat, hein, donc le Cercle de la Renaissance, c'est très près du Vieux-Port, donc il y a un bar, et puis il y a cette grande salle.
C'est en face de la poste de la Ciotat, c'est
voilà,
facile à trouver.
Voilà, où plein d'activités associatives se déroulent, donc là, les murs sont décorés de ces 29 panneaux, et puis sur les tables, alors toi en particulier, Nicolas...
Dans le bar aussi, il y a plein de il y a une autre partie de l'exposition, oui.
Voilà. Et donc moi, comme vous le savez, j'ai un bateau avec lequel je fais le projet de transport de produits méditerranéens, la route de Zatar. Mais toi, Nicolas, et ton frère Jean, qui avait écrit les paroles qu'on a entendues tout à l'heure, vous avez des capacités de charpentier de marine. Et donc je vois que tu as apporté deux magnifiques jeux d'échecs qui n'ont pas encore été vendus, mais tu m'as dit tout à l'heure que s'ils n'ont pas vendu à la fin de l'expo, tu les mettras sur le bon coin pour que les sous aillent donc à Médecins Sans Frontières et au Secours Populaire pour Gaza.
De toute façon, c'est la vente de ces pièces, elle ira à la solidarité. Mais je suis loin d'être le seul, puisqu'il y a une trentaine d'exposants.
Donc là, je suis avec Nicolas Pluet, membre du Parti communiste, membre du Cercle de Renaissance. Donc
Martine
je vois qu'il y a...
Della Radione a porté des masques. Laurence Casterman, c'est des sculptures sur des migrants.
À propos des migrants, oui. D'ailleurs, à propos des migrants, je pense que cette expo, elle pourrait être exposée sur les murs du grand local de la CIEMAD à Marseille. Là, au mois de novembre, il y a tout l'événement national Migrants Scène. Et donc, voilà, toutes les structures qui entendent notre émission, à travers Nicolas Pluet et le collectif Palestine La Ciota, on dispose vraiment d'un outil très intéressant qui est opérationnel pour informer les gens, pour leur expliquer ce qui se passe et pour qu'on puisse agir en étant plus nombreux. Là, je vois qu'il y a Anne-Marie Busca qui a produit des masques. Il y a
là,
aussi.
C'est plus La Ciota, c'est un petit peu à côté, c'est La Bédoule.
Ah oui, à Roquefort-la-Bédoule, on a des magnifiques artistes en résidence, oui.
Okay. Une femme qui est venue à la poterie quand elle avait 6 ans et qu'elle a vu travailler un potier, elle s'est dit c'est un magicien. Et, voilà. Et elle s'est mise à la poterie petit à petit, et notamment à sa retraite.
Ok, Anne-Marie Busca de Roquefort-la-Bédoule. Là, c'est un ami qui est un peu plus loin. Lui, il est à Cabasse, c'est Alain Lorette, qui fait des sculptures assez incroyables avec des métaux. Là, on a un masque fait avec des boules. Avec des yeux verts, verts un petit peu comme l'espérance du drapeau palestinien. Alain Lorette, c'est l'atelier Pimpin. On peut le trouver sur Internet. Ah, là, on a des dessins de Constance Benary. Ah, et des poèmes. Tiens, est-ce que tu peux nous dire qui nous a apporté ces recueils de poèmes ?
C'est le crieur public de La Ciotat, Frédéric Ganga, qui crie les nouvelles. D'ailleurs, il était un peu engagé, et comme il avait son association avait une subvention de la ville de La Ciotat pour faire le crieur public, mais à l'époque où on revendiquait une médiathèque, il a eu le malheur de faire des petites chansons très gentilles pour réclamer la médiathèque. Il a vu débarquer un élu, l'air menaçant, et la subvention a été définitivement coupé. Donc depuis des années et des années, il fait ça bénévolement avec l'aide de quelques-uns.
D'accord.
Et il a écrit des poèmes et des recueils des poèmes, et il les met dans l'exposition.
Si j'avais mes lunettes, je pourrais le lire, le poème, le texte, c'est le sang de Gaza.
Le sang de Gaza.
Moi
j'ai la lyre et tous les poèmes, toi lyre d'acier et tous les blasphèmes.
Qui séchera le sang de Gaza ? Moi, j'ai le cœur ample et fatigué. Toi, le souvenir sûr et transformé. Qui séchera le sang de Gaza ? Moi, le mendiant de toutes les terres. Toi, le vieux chien de toutes frontières. Qui séchera le sang de Gaza ? Voilà, il y a d'autres couplets comme ça de la part de Frédéric Ganga, qui édite aux éditions du Bon Sorcier, et donc on peut le trouver à La Ciotat. Voilà, et puis il y a une table où j'ai pu mettre quelques produits de Palestine, des produits alimentaires ou artisanaux, qu'on a en France grâce à des gens basés en Aveyron, près de Rodez, qui il y a plus de 20 ans ont créé l'entreprise France Import Palestine, FIP. Donc c'est pas la radio, ici on est sur Radio Galère, et on peut aller sur fipsouk.fr, découvrir ces produits qui sont exposés là. Et chaque fois que je peux avoir une place, je suis donc le dimanche matin au marché de La Ciotat. Voilà, et puis donc je répète, on est au Cercle de la Renaissance, on est mi-novembre 2025, et grâce à Nicolas, grâce à Philippe Bonneau, grâce à tous les gens du collectif Palestine La Ciotat, on va faire en sorte que cette expo circule à Marseille, bien sûr, mais à Aix, bref. Donc tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que nos décideurs ne font rien, c'est multiplier des événements d'information comme ça, multiplier des manifestations à La Ciotat, à Marseille c'est tous les dimanches, à Aix c'est le samedi, etc. Faire des émissions de radio. On peut faire des dons à des associations dont on est sûr. On a cité bien sûr Médecins Sans Frontières, le Secours Populaire. Il y a l'association France-Palestine Solidarité qui est sûre de faire arriver des sous au bon endroit. Il y a également l'Union Juive Française pour la Paix. Et puis tout ce que chacune peut faire aussi, c'est boycotter des articles de consommation qui sont produits par des entreprises qui investissent dans les colonies illégales. Donc là, c'est une campagne internationale, ça s'appelle Boycott des investissements en solidarité. Voilà, et tout citoyen, chaque jour, peut décider de ne pas acheter tel ou tel produit, pour ne pas les citer. Il y a Carrefour, par exemple, il y a la marque de chaussures Reebok, il y a Puma, il y a SFR, il y a AXA, etc. Ce sont donc des sociétés qui investissent dans les colonies de ce maudit État d'Israël qui crée des crimes tous les jours et qui n'est pas encore sanctionné. Donc merci, Nicolas,
mais
de faire tout
bien,
ce travail.
Mais j'aimerais bien qu'à partir de ta présence avec ton stand, tu décides de faire un don significatif à notre collecte pour la solidarité financière à Gaza, parce que pour l'instant, ça n'est pas encore le cas, mais je l'attends vivement.
Bien sûr, il n'y a pas de souci. Merci, Nicolas.
Non, merci, Nicolas, et à tout le collectif Palestine La Ciota. Et donc, n'hésitez pas à y aller. Hein, tous les dimanches, à partir de 10h, ils se réunissent sur la marche de l'église et on peut en profiter pour aller au marché du Port-Vieux. Je signale aussi à La Ciota qu'on avait réussi en février dernier à faire projeter au plus ancien cinéma en activité du monde, c'est-à-dire à l'Eden Théâtre, le documentaire No Other Land, qui avait eu un Oscar. Et puis récemment, l'association des Amis de l'Eden Théâtre a fait projeter ce film qui avait été sélectionné au Festival de Cannes, Put Your Soul on My Hand and Walk, où une réalisatrice iranienne était en communication avec une comédienne gazaoui pour la filmer, pour l'enregistrer. Et puis au moment où ce film a été annoncé en sélection officielle à Cannes, quelques jours après, cette comédienne gazaoui et toute sa famille s'est faite cibler par l'armée d'occupation israélienne et donc s'est faite assassiner. Voilà, et un peu de douceur, on va entendre un vieux briscard de la musique, le fameux Roger Waters de Pink Floyd, qui écrit de plus en plus de choses à propos de la Palestine. Et cette chanson s'appelle Soumout. Je rappelle que quand on passe une chanson, vous pouvez aller la rechercher sur YouTube. Et en l'occurrence, cette chanson qui s'appelle Soumout de Roger Waters contient tout un tas de paroles pour expliquer ce que signifie ce mot. Ce mot Soumout, S-U-M-U-D, signifie la capacité de résister, de persévérer, de ne jamais rien lâcher, d'être toujours debout. On écoute Roger Waters.
There is a word in Arabic, sumud. It means steadfast perseverance. Particularly in resistance to the occupation of your homeland. I just want that thing. When voices join in harmony, and in that fleeting moment, when meaning coalesces there, all dark dissolving, clouds the alleyways no more. And fresh bread scent of home pervades the air. No sandal soles in dust of broken homes peep bloody from the garment hem. And all the big parades and shock and awe and swagger on the carrier deck, and medals jangle helpless in the face of what is fair. Give me an oh yeah. Stood where you fell. You were brutally slain, but your spirits remain. Rachel Curry and Shireen Abu Akleh.
Allô, allô, Gemma, tu m'entends?
Ouais, allô.
Ah, ça allô, fait... Allô. Ça fait plaisir d'entendre ta voix là dans l'émission Une heure en Palestine sur Radio Galère. Et quand tu la réécouteras, tu seras content. On vient de passer une chanson de Roger Waters des Pink Floyd qui s'appelle Soumout. Alors justement, on t'a au téléphone parce que tu reviens d'un endroit où des gens ont beaucoup de soumout. Cet endroit, c'est la Cisjordanie. Tu es retourné voir les gens chez qui tu arrives à déterminer les produits que tu vas importer. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu là, en ce mois de novembre 2025, qu'est-ce qui se passe en Cisjordanie par rapport au fait qu'on entend que de plus en plus des colons attaquent des paysans, attaquent des paysannes, en plus sous la protection de l'armée israélienne. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas, Gemma? Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Alors déjà, c'est super la chanson Soumout, bien sûr ça me parle parce que j'ai vérifié encore une fois que depuis 20 ans, je vérifie, je vois la résilience des Palestiniens, justement comme tu le disais, par rapport... Actuellement, la récolte des olives, qui est un événement annuel où tout le monde en famille va chercher les olives dans son verger. Alors, bon, la situation, comment elle est là-bas? Donc moi, évidemment, je suis allé rencontrer dans un moulin, chez Samir, un moulin dans un village qui s'appelle Assira Chabalier. Assira Chabalier, c'est un village qui est réputé, c'est du côté de Naplouse, hein, entre Naplouse et Salfit, et ce village est réputé pour avoir une huile d'olive exceptionnelle. Alors, lui, ce qu'il nous a dit, bah, la nouvelle n'est pas bonne dans le sens où la récolte de cette année est très très mauvaise, il n'a jamais connu une récolte comme ça. Alors bien sûr, il y a les interventions des colons et puis de l'armée, ça c'est. Mais bon, lui, pour l'instant, enfin, il continuait, il pouvait récolter et presser. Alors, ce qui se passe, c'est que là, moi, je veux dire quelque chose de très, très précis. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la dernière récolte 2024, les Palestiniens mesurent en kilos d'huile produite. Le kilo d'huile d'olive produite en 2024, le prix était de 28 shekels. Il était vendu à 28 shekels. Et cette année, récolte 2025... C'est 50 shekels, voilà, c'est presque le double. Samir n'avait jamais connu ça, hein. C'est un monsieur qui doit avoir pas loin de 60 ans.
Mais pourquoi, attends, oui, je comprends, ouais. Mais pourquoi ce prix a doublé en un an? Pour quelle raison?
La raison principale, c'est parce qu'ils ont manqué d'eau dans les vergers, il n'y a pas eu assez d'eau en Palestine, et plus les interventions des colons, mais bon, je ne veux pas dire le pourcentage, mais c'est surtout un problème climatique. Hein.
Ok, d'accord, bah, ça le climat, je crois que tous les pays, y compris en Europe, avec les incendies en Portugal et en Grèce, les récoltes sont difficiles, mais là évidemment, la particularité en Cisjordanie, quand on parle d'intervention de colons, il faut savoir que c'est des déracinements de vergers entiers, des arbres brûlés, etc. Hein. Et donc je crois que ça a empiré, même y compris par rapport à l'année dernière, ces problèmes d'attaque illégale des colons.
Oui, effectivement. Alors, on est allé, je suis allé au moulin, et puis donc Samir m'a donné une indication dans le secteur pour aller rencontrer des paysans qui étaient en train de récolter. Donc il ne s'est rien passé. Faut pas imaginer que c'est partout, quoi. Les colons attaquent pas partout.
Heureusement.
Hein, y en a des milliers et des milliers d'oliviers, donc on récolte. Non, la principale raison, c'est le problème climatique. Après,
d'accord.
Ce que je veux dire, c'est que donc quand je suis arrivé là-bas, il venait d'y avoir un problème avec une trentaine d'internationaux qui étaient venus dans le cadre justement appelé par une organisation de paysans pour accompagner les paysans pour ramasser les olives. Et dans le secteur toujours de la Plouze, en particulier à Bourine, à Kraba. Et donc là, eux, ils ont été attaqués, intimidés déjà par les colons et même encerclés, emmenés en prison, ils ont passé 4 nuits, je crois, en prison, et ils ont été déportés. C'est-à-dire qu'on ne dit plus expulsés maintenant, on dit déportés. Ils ont été déportés, les 30, en Jordanie.
Voilà. Et le motif de leur déportation, c'est simplement comme des années, il y a des gens qui viennent prêter main forte pour récolter des olives, et donc pour ce prétexte-là, on se fait déporter, littéralement.
Non, attends, j'explique. finis d'expliquer. Donc, les militaires, donc là, ce sont les militaires qui les ont emmenés. Ils sont arrivés avec un document administratif de chez eux, hein, un ordre militaire. Donc, d'un seul coup, le verger devenait terrain militaire. Donc, pas d'activité. C'était eux qui étaient propriétaires de. Voilà. Ça se passe comme ça, hein, là-bas. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit de déclarer que c'est une zone militaire. Et puis, donc. Les paysans palestiniens n'ont plus le droit d'y aller. Voilà.
Tout à fait.
C'était ça le motif.
Là, hein, c'est très clair. Et quand voilà. On dit ça se passe comme ça, c'est quoi qui se passe ? Eh bien, c'est que dans l'État d'Israël, gouverné par ce gouvernement très, très extrémiste, fasciste, etc., du jour au lendemain, une règle peut intervenir au détriment de toutes les lois fondamentales et hop, sous prétexte qu'on récolte des olives ou alors sous prétexte qu'on amène des produits humanitaires en bateau, ben on part en prison et on est effectivement déporté. Mais avant d'être déporté, on passe 4 jours et 4 nuits en prison et c'est pas du tout rigolo. On a eu des témoignages là, de gens de Flotty qui ont été littéralement torturés, qui ont été violentés, qui ont été terrorisés à la fois mentalement et physiquement. Dis-moi, on sait que tu vas là-bas depuis 20 ans parce que tu compte des producteurs, pas seulement d'huile d'olive, pour qu'effectivement, mais c'est de plus en plus dur, un conteneur finisse par arriver à Marseille, passe la douane et parte là-bas dans les locaux de France Import Palestine. Est-ce que tu peux avoir une idée là ou pas du tout du moment où un nouveau conteneur pourra traverser la mer ou ça on n'en sait rien ?
Alors on a un conteneur en commande depuis un mois, on l'a commandé. Le problème c'est que pour l'instant impossible d'acheter de l'huile d'olive. L'organisation de paysans ne peut pas acheter de l'huile d'olive. Il faut comprendre que il y a certains paysans qui gardent l'huile d'olive pour eux, leur consommation personnelle, pour leur famille, et qui ne la vendent pas. Donc il est difficile de trouver de l'huile d'olive pour exportation, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Donc on a retardé et puis on risque de manquer parce que maintenant on est prêt. On a encore de l'huile d'olive, nous, mais on est presque démunis en stock là sur la récolte 2024. Donc pour la récolte 2025, ce qui est la stratégie peut-être qu'on va choisir parce que donc il est question, ça c'est pas officiel, mais bon, il est question qu'il y ait des importateurs en Cisjordanie qui fassent rentrer, qui achètent de l'huile d'olive de Turquie, de Syrie, d'Espagne, je sais pas d'où. Et à ce moment-là, quand il y aura une quantité d'huile d'olive qui va rentrer, ça va faire redescendre le prix de l'huile d'olive. Et à ce moment-là, on pourra peut-être avoir de l'huile d'olive, mais bon, il n'est pas question qu'on achète de l'huile d'olive à 50 shekels et ça serait impossible à vendre. Donc la stratégie qu'on a certainement choisie, on verra avec eux là-bas, mais ça sera d'importer quelques palettes de bouteilles de 50 centilitres. Hein, mais sinon, il n'y aura pas de carton, enfin, avec les bidons de 4 litres, il n'y aura pas de 75 centilitres, je pense que c'est exclu. Mais là, on doit attendre le mois de janvier pour savoir un peu, et puis espère avoir à nouveau un conteneur au mois de février, hein, mais ça marche, hein, les conteneurs, ils passent. Hein, le dernier qu'on a reçu, c'était au mois d'août.
Oui, c'était au mois d'août, ben oui, puisqu'on l'a reçu juste à temps pour ce fameux festival Palestine en campagne qui, cette fois, avait lieu à Bobigny. Écoute, beaucoup, merci infiniment Gemma de retourner systématiquement là-bas. Heureusement, pour l'instant, tu n'as pas été déporté parce que tu as un rôle fondamental pour permettre à ces producteurs d'exporter. En tout cas, on compte sur toi, puisqu'ici à Marseille, il y aura la grande vente annuelle d'Emmaüs Pointe Rouge le 6 décembre. On va se revoir avant, puisque heureusement, il y a encore des stocks de produits palestiniens là-bas en Aveyron, près de Rodez. Et puis ensuite, on va faire une petite tournée dans les Alpes de votre Provence. Je sais que tu es en train là de décharger ce qu'a t'a ramené du Pays Basque. Donc, merci beaucoup. Gemma le Philistin, et à très bientôt.
Non, mais j'ai quelque chose à dire encore.
Bien
moi.
Sûr, on t'écoute.
J'ai un message des Palestiniens, c'est important.
Ah,
non
bon. Bien sûr.
Alors, les amis de la Confédération Paysanne ou autres qui sont allés dans le but d'accompagner, de protéger les paysans palestiniens, ils sont allés avec un motif purement politique et prêts à la confrontation, ils étaient informés du risque. Bon. Il y a plusieurs façons de voyager et ce qui est important et ce que me disent les Palestiniens, il faut aller les voir, il faut y aller en Palestine, il faut aller en Cisjordanie et on n'est pas obligé d'aller pour la récolte, de toute façon elle est terminée. Il faut aller en Palestine, il faut aller rencontrer les Palestiniens, il faut aller dans les hôtels, il faut faire marcher leur économie. L'ami d'Iwan Voyage, Sabri Giroud, là il a un groupe qui est prévu pour le mois de mars, il faut absolument aller visiter cette Palestine tant qu'on peut le faire. Hein. Et voilà. Moi, je suis la preuve vivante qu'on peut aller en Palestine et en revenir en très bon état.
Tout à fait, et ça fait 20 ans que ça dure. Et oui, c'est très important ce que tu dis, parce que vu d'ici, on sait qu'il se passe beaucoup de choses terribles, mais la Palestine, c'est quand même relativement grand, et c'est très, très important d'y aller. Bon, tout le monde ne peut pas le faire, mais c'est possible, en particulier avec Diwan Voyage. On peut taper D-I-W-A-N sur Internet, et on trouve cette organisation qui permet de voyager. Ce qui est très important, le travail que fait France Import Palestine, c'est de rendre humains ces gens-là, dont on nous parle toujours en termes abominables dans les médias européens et français y compris. Ces gens-là vivent, ces gens-là produisent, et pour qu'ils continuent de vivre et pour qu'ils continuent de résister, pour que le soumout perdure, ben il faut consommer leurs produits, il faut boycotter les produits qui proviennent des colonies illégales, et dès qu'on peut, il faut y aller, on peut y aller. Merci Gemma de nous transmettre ce message qu'il faut continuer d'aider ces gens-là, et c'est très important. À bientôt, Gemma.
On continue. Merci.
Merci à toi.
Au
revoir. À bientôt. Allô, Emilien ?
Ouais.
Ah, Emilien, bonjour. C'est super d'entendre ta voix. Là, je sais que tu es à Nice, donc tu es revenu d'un voyage assez incroyable sur la Global Soumout Fultia. Donc, nous sommes sur Radio Galère, 88.4, dans l'émission Une heure en Palestine. Donc, on va entendre Emilien, mais je rappelle avant qu'on a pu écouter dans l'émission du mercredi 22 octobre et dans celle du mercredi 29 octobre, en deux fois, l'enregistrement que j'ai pu faire à Ajaccio avec Isaline Chouri. Alors, Isaline Chouri a 83 ans et elle, c'était la doyenne des gens qui se sont engagés sur la flottille Thousand Madeline to Gaza. Et donc, je vous invite à écouter en podcast pourquoi Isaline s'est engagée dans cette flottille à cet âge-là. Qu'est-ce qui lui est arrivé en mer? Elle était sur un gros bateau qui s'appelait Conscience. Il y était plus de 90 à bord. Et surtout, ce qu'elle a subi dans les prisons d'Israël une fois arrivée à terre. Et aussi les maltraitances dont elle avait été victime de la part d'autorités françaises. Voilà, mais cette fois, nous sommes donc avec Emilien. Alors, je ne connaissais pas Isaline avant de la rencontrer à Ajaccio. Mais je connais Emilien depuis un certain temps. Parce que, comme moi, c'est un marin. Mais contrairement à moi, qui ne suis qu'un simple animateur radio, Emilien est un journaliste reporter à l'Humanité. Et donc Emilien, lui, s'est engagé, c'était à mi-août, hein, sur la Global Soumout Flotilla. Alors Emilien, est-ce que tu peux, comme l'a fait Isaline, nous expliquer pourquoi, à l'âge que tu as, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu es père de famille, et voilà, qu'est-ce qui t'a amené à t'engager sur cette fameuse flotille avec des voiliers pour aller vers Gaza?
Eh bien... Écoute, pourquoi? D'abord, c'est en tant que journaliste que je suis amené à embarquer, quoi. C'est la rédaction qui me sollicite, qui me dit, Emilien, écoute, on a la possibilité d'envoyer un journaliste à bord de la flottille. Est-ce que tu acceptes d'y aller, quoi? Et pour moi, ben, ça a été une évidence. Ça a été une évidence, comme tu le disais, parce que j'aime la mer, j'aime la voile et je trouve ces projets de flottille qui ont démarré depuis le début du blocus en 2007 à la fois poétique et militante. Enfin bon voilà, ça me parle énormément, ça me parle énormément par rapport aux projets, aux autres projets qu'on mène nous avec notre voilier qui a diffusé des spectacles autour de la solidarité avec les migrants, etc.
Oui.
Donc c'est une évidence. Et puis après c'était inédit comme événement. Donc pour un journal comme l'UMA, c'était une évidence qu'il fallait le couvrir.
Ok, Emilien, tu m'entends?
44 pays.
Ouais, oui, ouais. D'abord, merci beaucoup de rappeler que les gens croient qu'il n'y a que cette année que des flottilles ont démarré, puisqu'on en a beaucoup parlé, mais c'est en fait depuis 2005 où la bande de Gaza subit un blocus, que chaque année, des flottilles se sont engagées en mer, donc, mais souvent c'était un bateau tout seul, mais aucun bateau n'a pu, ne serait-ce qu'arriver dans les eaux d'Israël, ils ont tous été attaqués dans les eaux internationales. Mais cette fois, la grosse différence, c'est qu'au lieu qu'il y ait un bateau, comme c'était le cas l'an dernier, il y avait juste un chalutier norvégien appelé Armada, cette fois, c'était une flottille qui engageait des dizaines de bateaux d'une part, et je ne sais plus, il y avait 44 nationalités. Donc merci de le rappeler. Et donc on revient cette fois sur le fait qu'en tant que journaliste, tu as été appelé par ton journal L'Humanité pour y aller. Et donc, tu y es allé. Et donc, ça a démarré où, finalement? Je crois que ça a démarré. Oui, donc merci Emilien de nous rappeler que c'est en fait depuis le blocus de la banque de Gazda en 2005 que chaque année, des flottilles tentent par la mer d'établir un corridor humanitaire, mais souvent, et c'était le cas par exemple l'année dernière, c'était un seul chalutier norvégien, alors que cette fois, en 2025, c'était une flottille qui rassemblait de très nombreux bateaux. Hein, et donc toi, c'est en tant que journaliste de l'humanité que tu as été appelé à y aller donc sur la Global Summit Flotilla. Ok. Et donc, une fois que tu as pris la décision, qu'est-ce qui s'est passé pour toi concrètement?
Bah, écoute, moi, je suis parti d'abord à Barcelone, où on a suivre les quelques jours de formation que tous les participants devaient suivre, tu vois. Donc c'était des trainings, des préparations, notamment à la non-violence, en fait, hein, à se préparer à tous les scénarios possibles qui pouvaient se passer pour la flottille en termes de est-ce qu'on allait arriver sur place, est-ce qu'on allait être intercepté, est-ce qu'on allait être attaqué, etc. Donc tout ça pendant 3 jours, on a eu à la fois des discussions et puis des trainings, voilà, ou de remise en situation, etc. Puis rapidement, je me suis mis à me rapprocher du port et à préparer les bateaux. Puis finalement, tout en faisant mon travail de journaliste, c'est-à-dire témoigner de ce qui se passait là à Barcelone, j'ai pris en main un des bateaux qui s'appelait le Bianca. Je l'ai préparé pour qu'on prenne la mer le 31 août, quoi. Avec le reste de la flottille. Et ce bateau, ben, on a essuyé au départ une tempête, un peu de gros temps, et puis au petit matin, j'ai la barque à lâcher, donc on s'est fait remorquer de retour à Barcelone, et puis on a laissé le bateau là, à ceux qui s'en occupaient, qui pouvaient s'en occuper à terre, et puis on a pris un avion pour Tunis pour faire partie de la deuxième vague de bateaux qui partait pour cette flottille, quoi.
Ok, oui, non, mais il faut rappeler qu'évidemment la Méditerranée est violente, mais ce qui est important, c'est que tu as dit que dans les trainings, vous étiez là, non pas armé, etc. Non, vous avez anticipé le fait que vous seriez attaqué et comment réagir, donc de façon non-violente, de façon pacifiste, puisque alors que Israël a qualifié immédiatement les gens qui s'engageaient dans cette flottille de terroristes, c'est le contraire. Tous les gens qui se sont engagés l'ont fait pacifiquement, en amenant du matériel, c'est-à-dire de la nourriture, des médicaments, mais je ne pense pas que vous étiez armé à bord. Étiez-vous armé à bord?
Non. Non, tu sais, c'était un truc. Par exemple, tu vois, on a à Tunis, deux des bateaux ont été attaqués par un drone. Tu vois,
oui.
Ça a été les premières attaques qui ont eu lieu dans le port. Et puis tout de suite, il y a eu des discussions oui, mais on pourrait très bien, sur nos messageries cryptées, mais je pense que si on braque nos projecteurs sur le drone, si jamais il y en a un autre qui revient sur le drone, il ne pourra pas nous viser, etc. Et là, tout de suite, par exemple, ça a été dit, mais non, il ne faut pas qu'on ait ce genre de comportement qui pourrait être considéré comme un acte violent, quoi, tu vois.
Tout à fait.
Toute la logique, elle a toujours été de dire, à partir du moment où on sent une menace, le principe, c'est celui de la non-violence. Donc, on se rassemble dans le cockpit, on met nos gilets, on met nos mains en mer, nos mains en l'air, et on leur parle pas, on n'a pas de réaction, on commente pas leurs ordres, etc.
Allez, oui, effectivement, c'est exactement ce qu'a vécu Isaline Chouri. Alors, cette fois, elle, je rappelle, elle était sur un grand, grand bateau qui s'appelait le Conscience. Ils étaient 90 à bord. Et 90, c'est beaucoup. Du coup, ils étaient constitués en petits groupes, assez autonomes, et chacun déterminait le moment venu, parce que vous saviez tous que vous seriez attaqués. Justement, est-ce qu'on va lever les bras, ou est-ce qu'on met les mains dans le dos? Est-ce qu'on regarde les gens fixement, mais pas longtemps, en fait? Toujours, bien sûr, pour ne pas provoquer de violence, ne pas ajouter de violence à la violence que vous avez subie. Donc. Et puis elle, à ce moment-là, dès ce moment-là, elle a alerté son président, c'est-à-dire M. Macron et les autorités françaises, que elle allait partir, que vous alliez partir, et poser la question, est-ce que les autorités françaises, comme elles doivent le faire, puisque des gens s'engagent humanitairement pour, comme c'est la loi, établir un corridor humanitaire, est-ce que vous alliez être protégé? Est-ce que vous, au niveau de la Global Summit Flotilla, vous avez à ce moment-là, alors que vous étiez déjà attaqué en Tunisie, alerté la France? Comment ça s'est passé à ce niveau-là pour toi?
Ça a été... je ne sais pas comment le qualifier, parce que c'est hallucinant ce qui s'est passé. Hein. Bon, de façon très protocolaire, enfin, on avait tous prévu, tous les Français à bord avaient envoyé un mail à la représentation consulaire en Israël, oui, en disant on est en train d'embarquer sur la flottille et puis on a de fortes chances d'être attaqué, de subir un enfermement arbitraire, on demande la protection consulaire. Bon, ça, ça a été la première étape. On a reçu tous un récépissé, nous prenons note de votre demande, point barre, quoi.
C'est-à-dire qu'ils ne vous ont pas dissuadé d'y aller, j'allais dire.
Tout à fait, il n'y a pas. Voilà. Parce que on aura la suite, justement. Donc ensuite, on est attaqué un peu plus tard après Tunis, on quitte Tunis, on fait route vers la Sicile, puis ensuite, vers la Grèce. Et là, entre la Sicile et la Grèce, on se fait une nuit, on se fait bombarder. Là, pour le coup, à 10 reprises, il y a 10 bateaux qui sont visés par des drones qui larguent des gros pétards extrêmement bruyants et qui ont endommagé 4 des bateaux, hein, donc certains qui ont perdu leur voile, etc. Et pendant ce bombardement qui dure 2h30, moi à 2h27, j'appelle le Quai d'Orsay. Tu vois, j'appelle le Quai d'Orsay. D'ailleurs, le gars au standard entend la dernière détonation.
Carrément.
Jusqu'à ce qu'il entende ça, il veut me passer personne. Quand il entend de la détonation, il me fait passer quelqu'un de la cellule crise, Quai d'Orsay, qui est un peu désarçonné, etc. Suite à ça, on me dit on vous rappelle, etc. Et là, moi, de l'intérieur de la flottille, j'appelle et on remet en cause le fait que je sois un journaliste, on remet en cause le fait que ces bombardements aient pu exister, on me raccroche au nez. Et ça, je parle de plusieurs coups de fil, et on me raccroche au nez à 2 reprises, en me disant même à un moment donné, mais puisqu'on vous raccroche au nez, vous comprenez bien qu'on ne veut pas vous parler. Il y a eu cet aspect.
Ouais, c'est le Quai d'Orsay, des affaires étrangères.
Voilà. Okay. Et à côté de ça, il y a eu un communiqué qui a été sorti par le Quai d'Orsay tout de suite, qui dit en gros, on condamne les attaques si elles ont eu lieu, oui, mais on avait dit aux gens qu'il ne fallait pas aller à Gaza, que c'était dangereux, mais on n'était pas à Gaza là, on était oui, plus proche de la Corse que de Gaza, tu vois.
Oui.
Et ça a été les arguments, et c'est encore les arguments, là tout le monde reçoit, parce que beaucoup de gens ont contacté le Quai d'Orsay, le Premier ministre, le Président de la République, et ils reçoivent tous cette réponse-là, quoi, tu vois, de dire on les avait prévenus que c'était dangereux, comme si ça pouvait être une réponse, mais en plus, bien sûr que c'est dangereux d'aller à Gaza. En même temps, le droit humanitaire prévoit que des gens puissent aller mener de l'action humanitaire. Ça passe. Mais en plus, là, quand on parle de toutes ces attaques, que ce soit le bombardement ou même notre arraisonnement ensuite, ça se fait dans les eaux internationales. Ça se fait dans des endroits qui ne sont pas à Gaza. Et donc, ou jamais, dans aucun document qui nous a été envoyé ou qui existe sur les sites officiels, on nous dit de ne pas naviguer dans les eaux internationales. Les eaux internationales, elles sont faites pour être naviguées.
Par définition, elles sont faites pour naviguer. Là, vous êtes. Vous avez une petite tempête à Barcelone. Bon, ensuite, de Tunis, hop, vous êtes déjà attaqué, mais on y va. Et vous êtes là, cette fois, entre la Sicile et la Grèce, vous êtes bombardé par des drones. Bon. Et la météo, elle était comment à ce moment-là? Est-ce qu'au moins la météo était clémente ou en plus vous étiez, je dirais, ballotté dans tous les sens?
La météo était clémente. Ah. Alors, tu sais, c'est très étrange quand tu navigues en flottille comme ça, c'est que. Tout est transformé par rapport à une navigation, je parle de la nuit, surtout par rapport à une navigation de nuit habituelle, tu vois, parce que, en fait, tu as une ligne d'un côté de rouge, de feu rouge, une ligne de côté de feu vert, tu vois. Et tu as l'impression d'être le seul à pas faire partie des deux lignes, mais en fait, non, tu vois, avec les. C'est un effet d'optique, mais donc ça réduit l'espace, quoi, tu vois, t'as l'impression d'être dans un couloir en permanence.
Je comprends. Et ça change un peu. Ouais. Et redis-nous, la flottille, la globale somme de flottilla, finalement, il y avait combien de voiliers en tout, à peu près?
On a été jusqu'à plus de 40.
Eh oui, 40 voiliers. Hein. Ouais. Et je rappelle, et puis 40 voiliers. Donc bon, mettons qu'il y en ait 5, ça fait plus de 200 marins. C'était peut-être plus. Et je crois qu'il y avait en tout 44 nationalités engagées. Hein.
Oui, on était à peu près 470 en participant. Eh oui. voilà, bon, y a eu des gens qui sont descendus à par moment, des gens qui sont arrivés
oui, bien
par
sûr, bien sûr.
Moment en Grèce, etc. Donc, oui, oui. Mais on était à peu près 470 voilà. Arrivés au large des côtes gazaouis.
Voilà, mais ce qu'il faut rappeler, je rappelle, c'est une grande première, on a été coupé tout à l'heure, mais les gens croient que ça n'existe que depuis là, cette année 2025, mais c'est depuis qu'il y a un blocus de la bande de Gaza en 2005 que très rapidement, comme encore une fois le prévoit le droit international, quand une guerre survient, parce que malheureusement elle en survient souvent, ben il y a des règles qui obligent les pays belligérants, comme on dit, de laisser des couloirs humanitaires, à terre bien sûr, mais là ou en mer, pour que au moins les gens qui sont victimes des guerres, c'est-à-dire qui ne sont pas des soldats, qui sont des civils, des femmes, des enfants, puissent avoir à manger, puissent avoir des secours médicaux, etc. Et c'est la raison pour laquelle c'est exceptionnel cette fois que ça ne soit pas un seul voilier ou un cargo, mais qu'il y a eu vraiment un rassemblement international de voiliers, là en plein automne en Méditerranée. Bon, alors, donc, après avoir été déjà bombardé entre la Sicile et la Grèce, comment ça se poursuit, donc toujours cap à l'est, toujours cap sur Gaza? Alors merci beaucoup Emilien Urbach, on entendra la suite de son témoignage dans la dernière émission Une heure en Palestine de l'année le 31 décembre. Avant d'écouter une musique magnifique, je dois vous dire un certain nombre d'informations qui est dans le site internet assopalestine13.org dans la partie agenda. Donc le lundi 24 novembre à 18h au Molotov, c'est la 3 place Cézanne à Marseille, c'est le carrefour entre le cours Julien, la rue d'Aubagne et la place Notre-Dame-du-Mont. Il y aura une intervention de la tournée ARA 36 qui consiste à prendre conscience de Palestiniens narrés, c'est-à-dire une soirée où on entend la réalité actuelle du peuple palestinien. Et puis bien sûr, samedi 29 novembre, depuis des années, c'est la journée internationale de solidarité en soutien avec le peuple palestinien. Une grande manifestation unitaire à Paris. Des Marseillais et des Marseillaises sont déjà partis. Le 15 novembre, vont faire plein d'escales pour que le plus de monde possible se réunisse à Paris et dans toutes les grandes villes le 29 novembre. En mémoire du plan de partage, du mauvais plan de partage qui a été fait au niveau de la Palestine le 29 novembre 1947. Et maintenant, pour nous donner de la force à tous, on entend No Passaras, le sioniste fasciste ne passera pas. Merci à beaucoup, à bientôt.
Camaradas, pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre. Alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza. Traigo en la boca el gusto acre de la pólvora y en el pecho la memoria de los que no volvieron, de las madres que miran el cielo buscando nombre. No somos espectros, somos manos, somos panes, somos canciones. Los que siembran odio recogerán su cosecha de fracaso. No es venganza lo que pedimos, sino justicia. No es odio lo que blindará nuestras filas, sino humanidad. El sionismo no pasará. Los pueblos que resisten jamás serán vencidos. Venceremos. La esperanza se alza y la vida ganará. La muerte que se alimenta de odio al fin quedará sin fuerza. Desde las olas del Mediterráneo hasta las llanuras y las colinas, las voces que gritan por Palestina son la voz de la humanidad. No aceptamos la impunidad que compra silencio con poder. No aceptamos que se convierta el dolor en mercancía de unos pocos. Capitales que se enriquecen con la guerra, sus fortunas están hechas de lágrimas y las lágrimas también pesan. La historia juzgará a quienes
quienes empuñaron la codicia contra la vida. Los que aman la libertad marcharán con los desposeídos. El sionismo no pasará. Corazones en alto, la dignidad florecerá. Obreros y obreras, campesinos, estudiantes, no descuidemos la unidad, la fuerza está en nuestras manos. Que nadie robe la palabra humano, ni convierta la justicia en mercancía. Veremos las calles llenas de pasos que reconstruyen, no de botas que arrasan. Veremos escuelas, pan en las mesas, hospitales abiertos al sol. No es utopía, es tarea común, y cada gesto cuenta como arma de vida. Por cada ceniza sembremos un árbol, por cada lamento un himno. El sionismo no pasará. Venceremos, porque la dignidad triunfará, la esperanza será ley, los pueblos libres escribirán.